Patricia, vous recevez la journaliste Laure Gasparotto, qui est spécialiste du vin, devenue vigneronne. Elle raconte son expérience dans le livre Vigneronne, qui est paru chez Grasset.
Laure Gasparotto, bonjour.
Bonjour.
Et cet ami commun, c'était Jean-Pierre Coff, hein, que vous avez tous les deux beaucoup aimé et bien connu. Alors, vigneronne, effectivement, vous l'avez été pendant quelques années, 4 millésimes à votre actif entre 2014 et 2017. Vous avez acheté un vignoble dans l'Hérault, les Gentillères, à Saint-Saturnin, c'est ça, Lucien?
À Saint-Saturnin-de-Lucian, mes vignes étaient à Arboras et Saint-Saturnin-de-Lucian, dans l'Hérault, c'est en terrasse du Larzac, au nord-ouest de Montpellier, sur les contreforts du plateau du Larzac.
Et exactement. C'est un paysage horrible. Non, mais c'est un coup de foudre que vous avez, et on vous comprend. C'est un endroit sublime.
C'est un coup de foudre parce que c'est rare, un paysage qui a autant d'odeurs, autant de couleurs et autant de sons. Alain Baraton, c'est un paysage où il y a énormément d'oiseaux qui font des concerts sans arrêt. Mmh. Et en fait, c'est un paysage qui m'a choisi. Et c'est là et nulle part ailleurs que j'ai voulu être vigneronne.
Et trois cépages donc ?
Trois cépages, Syrah, Grenache et Carignan, que du rouge. Que du rouge parce que j'étais toujours maman à Paris d'enfants et que je partageais ma vie entre la ville et la campagne. Et que si j'avais eu du blanc, je n'aurais pas pu faire la rentrée de mes enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est chaque vigneron a ses paramètres qui concernent vraiment sa vie privée.
Mais ces vins du Languedoc ont été un peu... enfin, sous-estimés, peu connus, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils sont.
En tout cas, dans les terrasses du Larzac, ce qui m'avait frappé, c'était l'homogénéité qualitative et la fraîcheur, parce qu'on est dans le haut Languedoc, c'est-à-dire entre 150 et 600 mètres d'altitude, et donc les vins ont vraiment une verticalité, un alcool maîtrisé qui est très équilibré avec la matière.
Alors vous avez sauté le pas avec une bande de copains et vous avez entraîné notamment Jean-Pierre Coff dans l'aventure.
Alors Jean-Pierre Coff, gentiment, quand je lui ai appris que je voulais être vigneronne, m'a dit je veux en être, et il a ajouté il faut vraiment que je t'aime parce que je ne bois que du blanc et tu vas faire que du rouge.
Voilà. Et alors c'est une aventure que vous avez vécue véritablement, pas toujours très très drôle. Vous avez voulu en plus vinifier séparément alors que précédemment le vin l'était dans des coopératives, le raisin partait dans des coopératives. Vous parlez aussi de toutes les démarches administratives, le bureau des douanes, on imagine bien ce que c'est. Et puis tout coûte une fortune quand on veut faire du vin.
Le vin, en fait, c'est du luxe, hein. C'est pas un aliment dont on a vraiment besoin. Mmh. C'est autre chose. Pourquoi boit-on du vin? Ça, c'est vraiment une question. C'est une question
parce
de civilisation.
Que c'est
une
parce
question
que c'est bon,
de convivialité. Et oui. Partir dans l'aventure avec des amis, c'était pour moi vraiment la condition sine qua non. Et ensuite, j'ai été très très heureuse au début de ce changement de vie et en effet, les démarches administratives notamment ont gagné du terrain et mon temps, c'était devenu très chronophage. Et même des vignerons aujourd'hui me racontent qu'il y a 30 ans, il suffisait de 10% de leur temps pour remplir leurs papiers. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui grignote vraiment ce métier.
Et les revenus, évidemment, sont aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la production et le retour des ventes, quoi. C'est aussi ça qui est difficile dans le métier.
C'est vrai que quand on souhaite changer de vie, aller à la campagne, on rêve, on imagine plein de choses. Et en fait, on fait aussi un vœu de pauvreté parce que l'agriculture en général et la viticulture en fait partie. On s'enrichit pas du jour au lendemain et c'est pas la question de s'enrichir d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'agriculture demande beaucoup, beaucoup de temps. La semaine dernière encore, j'étais dans le vignoble. Il faisait très très chaud et là il est 8h du matin. Dans le sud de la France, il fait déjà très chaud et certains vignerons sont depuis 3h du matin en train de piocher parce que plus tard dans la journée, c'est impossible. Et c'est vrai que la rémunération n'est pas à la hauteur des efforts qui sont demandés.
Les vignerons dont vous dites, Laure Gasparotto, qu'ils sont les piliers indéfectibles de notre civilisation, qu'on pourrait aussi les écouter davantage. Ce sont des lanceurs d'alerte parce qu'ils connaissent le monde, ils écoutent le monde.
En fait, quand j'étais vigneronne, je me suis rendu compte qu'on était vraiment très proche du changement du climat. Il y a les grêles, la sécheresse. Et en fait, c'est vrai que on est en première ligne et on devrait plus écouter les vignerons à ce niveau-là, en effet.
Et il y en a beaucoup qui vous ont dit qu'ils ne se sentaient pas écoutés. Il y a des histoires tragiques aussi. C'est comme chez les agriculteurs.
Les chiffres de la mutualité sociale agricole sont très très alarmants et on en parle hélas trop peu. Maintenant, ce sont 2 suicides par jour qui sont dans le monde agricole et la viticulture n'y échappe pas. Ce dernier mois, on a vu, en tout cas autour de moi, ce que j'ai su, c'était au moins 6 suicides parmi les vignerons. C'est sûr qu'ils ne sont pas entendus et il faudrait organiser quelque chose pour qu'on les comprenne mieux.
La vigne, et ça vous en parlez aussi, je trouve très très bien dans ce livre. La vigne, c'est un être vivant. Elle parle, elle crie, elle appelle, elle a faim, elle a soif. Il faut l'écouter. Il faut être
C'est réceptif. Vrai qu'à la baraton, on comprendrait ça par rapport aux arbres, mais c'est vrai que la vigne est une plante pérenne, et le vigneron, d'année en année, la taille. Chaque geste qu'il fait sur sa plante, la plante s'en souvient, et il y a un vrai dialogue qui naît entre l'homme et la plante. Donc oui, le végétal est là pour parler aussi à l'homme et faire entendre les changements climatiques.
Et vous parlez aussi du calme du raisin offert quand on est seul dans son chai.
C'est un calme relatif parce que le raisin, le soir de la vendange, en fait, il commence même selon la chaleur à fermenter, donc il a un son. C'est vraiment comme du bétail qui entre dans l'étable, du raisin qui entre. Donc c'est vivant, c'est une matière très très vivante au contraire.
Et la première mise en bouteille, ça a été un moment émouvant dont vous vous souviendrez toute votre vie?
Mon premier vin, c'est... Souvent, on me demande, est-ce que j'ai fait le vin que j'ai souhaité faire? Oui, c'était...
Quelle intention aviez-vous? Puisque vous dites que en buvant, on sait quelle est l'intention du vigneron.
Mon intention, c'était vraiment une intention de partage et un vin qui ressemble à ce lieu qui m'avait ému. Et je voulais que ce lieu soit comme emprisonné comme une carte postale dans la bouteille. Et vraiment, j'ai ressenti ça pour ma première mise en bouteille. Oui, c'était très émouvant et j'attendais avec impatience de pouvoir l'ouvrir et voir le ressenti des gens avec lesquels je le partagerais.
Et vous avez encore gardé des bouteilles maintenant que vous n'avez plus votre domaine, hein ? Mais vous ne le voyez pas comme un échec.
Non, pas du tout. Non, c'était vraiment une aventure que j'avais besoin de traverser. C'était un questionnement de moi-même aussi, de changer de casquette, de passer de journaliste à vigneronne, des vignerons que j'interviewe tout le temps. Et non, ce n'était pas un échec. D'ailleurs, avec ce livre, c'est une transformation encore de cette expérience.
Vigneronne, qui est donc paru chez Grasset, Laure Gasparotto, merci.
Merci.